Vous écoutez France Culture, tout de suite, le journal.
Le journal vous est présenté par Valentin Gris.
Bonjour à toutes et à tous. Encore un jour de vote en Roumanie. 6 mois après l'élection annulée, nouvelle présidentielle en vue avec un équilibre politique qui, lui, n'a pas changé. La Syrie de nouveau plongée dans la peur. Les persécutions contre les Druzes ont déclenché une riposte israélienne de plus en plus menaçante. Nous serons sur place dans ce journal. 6 mois après, 19 millions de Roumains de retour aux urnes ce dimanche. Les autorités promettent une présidentielle équitable, estiment avoir tiré les leçons du fiasco de l'hiver dernier quand le scrutin avait dû être annulé sur la base d'une note des services de renseignement évoquant une influence russe via le réseau social TikTok. Mais les ingrédients de ce nouveau premier tour n'ont pas beaucoup changé. Si l'éphémère président élu Calin Georgescu d'une extrême droite pro-russe a donc été écarté, une autre figure anti-européenne et fan de Donald Trump, George Simion, émerge en tête des sondages, ce alors que la Roumanie a pris un rôle décisif dans l'OTAN depuis le début du conflit en Ukraine. Virginie Pironon, Bucarest semble à nouveau à un tournant entre dégagisme et stabilité politique.
Une Roumanie plus divisée que jamais, entre deux grandes tendances selon les politologues. La première, ultranationaliste, illibérale voire xénophobe, qui questionne l'appartenance de la jeune démocratie roumaine à l'Union européenne et à l'OTAN. Et la seconde, qui au contraire souhaiterait poursuivre ce chemin entamé il y a 20 ans. En tête des sondages, le candidat d'extrême droite, George Simion, 38 ans. Arrivé quatrième en novembre dernier, le président du parti AUR, deuxième force au Parlement, espère capter l'électorat de Calin Georgescu. Au second tour, celui qui revendique sa proximité avec Donald Trump pourrait affronter le candidat des partis au gouvernement, Crin Antonescu, ou l'ancien Premier ministre, Victor Ponta. Mais tous deux pourraient faire les frais du dégagisme qui traverse le pays, une tendance dont pourrait bénéficier le maire de Bucarest, le réformateur Nicu Șordan, mathématicien de renom qui a fait ses études en France. La Roumanie, à l'heure des choix, selon les spécialistes, le pays est confronté au plus grand risque d'orientation géopolitique de ces dernières décennies.
Virginie Pironon. En Syrie, 14 années de guerre et des conflits qui n'en finissent pas. Le nouveau pouvoir islamiste du groupe HTC s'en prend violemment aux minorités druzes, lesquelles ont obtenu depuis plusieurs jours le soutien non moins violent d'Israël. Un soutien en forme d'étau se resserrant progressivement. Car hier, au terme de frappes menées dans la nuit, l'armée israélienne s'est dite déployée dans le sud de la Syrie, prête à empêcher l'entrée des forces hostiles dans la zone de villages druzes. C'est la peur qui s'installe sur place, de Deraa jusqu'à Damas. La perspective d'une offensive terrestre visant la région druze de Soueïda suscite une vive inquiétude. Beaucoup craignent désormais que l'armée israélienne ne passe par leur ville. Les habitants redoutent de devenir les dommages collatéraux d'un conflit qui les dépasse. Reportage de notre correspondant sur place, Mohamed Erami.
À Nawa, dans le sud de la Syrie, les tensions sont visibles à chaque coin de rue. Depuis la chute de Bachar al-Assad, les habitants vivent sous une double menace, celle des milices et celle désormais d'une armée israélienne de plus en plus présente dans la région. Vendredi soir, peu après 21h, des frappes ont visé la ville voisine d'Izra. Oum Hassan, habitante de Nawa, contactée par téléphone, était chez elle, avec ses enfants.
Une des frappes est tombée vraiment pas loin de notre maison et mes fenêtres ont même tremblé. Ici, tout le monde parle d'une opération imminente d'Israël. Cette idée m'effraie énormément et je n'arrive même pas à laisser mes enfants aller à l'école. Et quand ils entendent les avions, ils ont peur.
Plus au sud, en remontant vers Deraa, l'inquiétude grandit chez les civils sunnites. Ils redoutent d'être pris en étau si une offensive israélienne vise la région druze de Soueïda. Nader, aussi appelé Abou Ma'an, en appelle aux nouvelles autorités syriennes.
Nous, on demande que le gouvernement nous trouve une solution ou conclue un accord avec Israël pour protéger définitivement les civils.
Dans ce sud syrien oublié, les habitants ne demandent plus justice, juste une trêve, une issue ou au moins une réponse avant que la guerre ne repasse une fois de plus par chez eux.
Mohamed Erami en Syrie pour France Culture. Le pouvoir syrien fait également pression sur des groupes locaux pro-palestiniens. Il a annoncé hier avoir relâché le chef du Front Populaire de Libération de la Palestine, Talal Nagi, détenu plusieurs heures. Un groupe proche du président déchu Bachar al-Assad. Washington notamment conditionne la levée de ses sanctions à un progrès dans la lutte contre ces groupes qu'il juge terroristes. Un référendum pour surmonter l'Himalaya budgétaire. Ce serait inédit dans l'histoire de la 5e République, mais François Bayrou y pense. Le Premier ministre réaffirme dans une interview donnée ce dimanche au journal du... au journal du dimanche son objectif de ramener le déficit public sous les 3% sans augmenter les impôts et avec 40 milliards d'euros d'économies à trouver dès l'année prochaine. Il compte donc soumettre, et je cite, un plan cohérent aux Français, jugeant que la question est assez grave pour qu'ils aient leur mot à dire. Un mot du temps pour terminer, des éclaircies au nord, des averses et des orages au sud. Comptez 9 à 14 degrés à Lille, 18 à 20 à Marseille. 7h passée de 5 minutes sur France Culture. Tout de suite, c'est question d'islam.
Question d'islam par Ali Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons de Bonaparte et l'islam. Et pour évoquer ce sujet et cette relation qu'a le général Bonaparte d'abord avec l'islam et plus tard Napoléon, j'ai grand plaisir à recevoir Ahmed Youssef. Ahmed Youssef, bonjour.
Bonjour, Rémi.
Merci, merci vraiment de nous faire l'amitié de venir, vous qui êtes le spécialiste de cette correspondance de Bonaparte et plus tard de l'empereur Napoléon avec tout ce qui concerne l'islam. Vous êtes un traducteur avisé, vous avez traduit plus de 2000 pages concernant ces correspondances, vous êtes historien, administrateur de l'Institut d'Égypte. C'est vrai que votre champ d'intérêt reste toujours Bonaparte, mais vous vous êtes intéressé aussi par exemple, à l'œuvre de Naguib Mahfouz, à autre chose. Vous avez traduit récemment les rêves sous le titre des rêves de convalescence du prix Nobel de littérature qu'est Naguib Mahfouz. Et votre ouvrage consacré à Bonaparte, écrit selon l'appellation arabe, oui. Bonaparte, oui. A reçu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est dire que nous sommes aujourd'hui avec un fin connaisseur de ce sujet. Comment étiez-vous, vous-même, Ahmed Youssef, amené à vous intéresser à Bonaparte?
Comme disait dans un article Yves Treillard, le rédacteur en chef du Figaro, dans un article sur moi, il y a 2 ou 3 ans, c'est quand on est d'Alexandrie, on s'intéresse aux hommes passerelles qui lient l'Orient à l'Occident. Et parmi ces hommes, Bonaparte, ou Bonabarta, comme je l'appelle dans mon dernier livre, occupe une place de choix. Parce que, eh bien, il a jeté des ponts, il a été fasciné par l'islam, il a ouvert la porte du monde oriental, le monde musulman, vers cette modernité occidentale. Je m'intéressais donc beaucoup à lui, parce que je trouvais mon propre histoire personnelle dans le sien. Mais c'est une autre histoire, hein. Je ne veux pas personnaliser trop l'histoire de Bonaparte avec l'islam. Voilà, donc quand on est d'Alexandrie, on est de facto orienté vers l'autre rive de la Méditerranée et les hommes de l'autre rive de la Méditerranée.
Alors, vous avez dit que Bonaparte était fasciné par l'islam. J'ai cru comprendre qu'il y a dans cette fascination, dans cette montée qui culminera par le fait qu'il foulera le sol brûlant de l'Égypte en cet été de 1798. Il y a une sorte de préparation, quelques signes, si j'ose dire, des signes prodromiques ou annonciateurs. D'abord, la bibliothèque orientale. Et puis, son ouvrage, Le Masque Prophète,
oui.
Qu'il a écrit relativement jeune. Il n'avait pas 20 ans, il avait peut-être 18 ans. En 1787, alors qu'il est né en 1769. Et donc, en gros, 4 hommes l'ont marqué. Le premier, c'est André Duryea.
Duryea, c'était un consul de France en Orient, notamment en Égypte, qui était un arabophone, un traducteur du Coran, un merveilleux traducteur. J'ai un exemplaire chez moi, pareil, de la romane, la première édition. Et cette traduction de Durer a bouleversé les connaissances de l'islam en Europe. Bonaparte a lu ce Coran de Durer et il en était profondément.
Là, le Coran de Mahomet.
Là, le Coran de Mahomet était profondément influencé. Parce que, comme c'était l'usage de l'époque, on traduisait le Coran avec une introduction. Et donc, ces hommes de l'époque, 18e siècle, avaient un regard plus modéré sur l'islam et son prophète, par rapport au regard un peu, on peut le qualifier de fanatique, du Moyen-Âge et de la période des croisades. Et donc, ce regard neuf sur l'islam et sa civilisation, c'était nouveau, le terme était nouveau, et a complètement influencé le jeune Bonaparte et l'a incité à écrire le masque à prophète, comme vous venez de le dire.
Oui. Pour rester un mot sur la traduction par André Durier du Coran, en l'Alcoran de Mahomet, il était si élogieux, si je puis dire, et même laudatif, en tout cas a bouleversé la présentation anti-hagiographique ou même polémique de la figure du prophète, que le Conseil des consciences, puisqu'à l'époque on avait un Conseil des consciences, l'avait interdit.
Oui.
Et le deuxième personnage, c'est Claude-Étienne Savary, puisqu'on dit que dans le bateau, oui, il a lu la traduction du Coran, celle de Claude-Étienne Savary.
Il faut dire que Savary, qui était parti effectivement en Égypte, il a fait une tournée en Orient, pas seulement l'Égypte, et nous a laissé un ouvrage assez romantique déjà, sur cet Orient rêvé un peu, par rapport à l'ouvrage de Volney, si vous me permettez d'aller à l'autre, qui avait plutôt un regard plus scientifique, plus réaliste, d'un voyageur scrutateur, si j'ose dire, moins rêveur que Savary. Et après, on raconte que Bonaparte, dans la préparation de sa campagne d'Égypte, a laissé passer l'œuvre romanesque de Savary
aux soldats,
et après l'œuvre un peu difficile, dure, réaliste.
Et critique, on va dire.
Très critique à ses généraux. Et donc, vous voyez comment il avait lu donc Bonaparte, les deux œuvres des deux hommes. Et il avait rencontré Volney en Corse, comme je le raconte dans le livre. Et il était très, très impacté par la rencontre avec cet homme et par son livre. Et quand on regarde, j'ai encore un exemplaire de ce livre chez moi, et il y a dans le livre une fascinante, là je parle de Volney, une fascinante cartographie en annexe. Et quand on voit, on est presque 10 ans avant l'expédition quand même, et comment lui a voulu donner ce caractère scientifique, militaire même, à son ouvrage. Donc Bonaparte a demandé à ses généraux de bien lire ce livre de Volney.
Alors pour nos amis auditeurs, il s'agit de Constantin François Chasseboeuf de la Girodée, voilà. Comte de Volney, qui est la contraction entre Voltaire et Ferney, du château de Ferney, là où se trouvait Voltaire. Et j'ai cru comprendre que Volney a fait aussi les portraits des deux antagonistes de Bonaparte sur place, que furent Mourad Bey et Ibrahim Bey. Et l'intérêt de Bonaparte d'avoir lu ces portraits, c'est de connaître ses adversaires sur place.
Cela explique l'importance majeure de l'ouvrage de Volney. Et à cela, si vous me permettez, on peut rajouter encore un autre moyen de connaître cet Orient, cette Égypte, avant l'expédition. C'était les rapports du consul de France de l'époque, au Caire, un personnage fascinant, j'en parle un petit peu dans mon livre, qui est Magallon. Magallon, effectivement, était un contact direct avec les deux B dont vous venez de parler, Ibrahim B et Mourad B. D'ailleurs, il faisait même un peu de business, si vous me permettez le terme
actuelle.
Actuelle, pour faire des affaires avec madame cette Nafissa, la dame Nafissa, pour vous dire combien elle était vraiment introduite. Dame Nafissa, c'était la femme de Mourad Bey.
Alors, le quatrième personnage, et qui finalement l'aidera dans la traduction, on parlait à l'époque de Drogman, c'est Jean-Michel Venture de Paradis.
C'est un personnage qui m'émeut énormément. Sa vie, son parcours, sa fin dramatique, oui. Malheureusement en Égypte, au pied de la muraille de Saint-Jean d'Acre. Alors, l'avantage...
De faim, ou de maladie, ou de soif...
On peut dire les trois vraiment. Et alors, il était âgé. Il faut dire que lui, il avait fait déjà, c'est juste dire que les choses comme ça, il avait fait déjà l'Égypte avant l'expédition. Il avait accompagné un certain... le baron de Toth, qui était un voyageur un peu espion du temps de Louis XV. Comme il parlait pas arabe, donc il était flanqué par ce Venture de Paradis. Cela dit que dans la campagne de Bonaparte, il y avait donc un connaisseur de l'Orient. D'abord, il y avait sa qualité de traducteur, interprète, mais aussi un connaisseur de terrain. C'est quelqu'un qui connaissait l'Égypte, mais aussi la Syrie, le Liban, la Turquie. C'était un drogman oui. fascinant, parce qu'il parlait les trois, quatre langues orientales parfaitement. Et d'ailleurs, on sait très bien que les premières proclamations de Bonaparte en Égypte ont été en arabe, ont été rédigées par Venture de Paradis.
Oui. Cette fin tragique que vous évoquiez aurait été presque dans une parole prémonitoire par son propre gendre, Joseph Sulkowski, qui, à Toulon déjà, dans une calèche, en vue la roue du carrosse se briser, et donc le gendre, Joseph Sulkowski, disait à son beau-père: c'est de mauvais augure, cela. L'un, le premier, donc le gendre est mort à l'âge de 25 ans, et le beau-père est mort dans cette fin tragique que vous évoquiez. Et c'est son compagnonnage avec François Baron de Toth qui l'a fait connaître davantage l'Orient. Donc globalement, mais pas uniquement, ce sont ces quatre figures emblématiques qui ont un peu préparé la montée intellectuelle, on va dire, de Bonaparte avant l'expédition. Mais l'histoire même de l'expédition, j'ai cru comprendre, cher Ahmed Youssef, c'est que parce qu'on s'est détourné de l'invasion de la perfide Albion, peut-être même sur suggestion de Talleyrand, oui. Et peut-être aussi que le directoire voulait se débarrasser du général, on a monté la dite expédition. Et en le nommant le général en chef de l'armée d'Orient.
Ça, c'est une très grande question. Les raisons pour lesquelles on a mis Bonaparte à la tête de cette armada et on l'a expédié, je ne veux pas dire renvoyé, mais on l'a expédié vers cet Orient magique. Et il y avait d'abord la fascination que Bonaparte exerçait, il ne faut pas oublier ça, exerçait sur la classe politique française de l'époque, sur l'opinion française et sur ce visionnaire qui s'appelait Talleyrand. Il faut dire qu'il avait à peine 28 ans, en revenant vainqueur d'Italie, à peine 28...
De Campo Formio.
Oui. Vraiment, alors vous imaginez un peu sa popularité dans l'opinion et la fascination qu'il exerçait sur la France de l'époque. Mais pour Talleyrand, lui, il voyait très bien que le temps pour Bonaparte n'était pas encore venu et qu'il fallait l'envoyer chercher la gloire que Bonaparte, que Napoléon plus tard a appelé dans son mémorial la gloire réelle de l'Orient. Incroyable ça, d'appeler la gloire en Orient une gloire réelle. Parce que il voulait aller sur les traces des grands vainqueurs de l'Occident. qui ont foulé le sol de l'Orient. On parle, quand on parle en Occident de cette partie de la vie de Napoléon, et on cite souvent César, on cite Alexandre le Grand, mais on ne cite pas Mahomet, on parlera un peu plus tard si vous voulez. Et donc il voulait vraiment se faire une gloire en Orient sur les traces de ces hommes qui ont donc qui sont entrés dans l'histoire par la grande porte qui s'appelait donc la porte de l'Orient.
Oui, on pense que il voulait suivre les grands bâtisseurs d'empire et l'idée c'était effectivement d'être sur les traces d'un Marc-Antoine ou d'un Jules César ou d'Alexandre le Grand avant eux, mais en réalité c'était dans son esprit suivre un bâtisseur de civilisation tel qu'il le percevait, et c'était le prophète de l'islam. Plus tard, on aura un Goethe qui parlera de lui comme un Mahomet du monde,
oui.
Et Victor Hugo le restreint uniquement à un Mahomet de l'Occident.
Oui.
Et donc, vous corroborez l'idée qu'il voulait suivre plutôt la manière, enfin être plutôt bâtisseur de civilisation que bâtisseur d'empire.
Mais je voudrais aussi revenir à cette idée très répandue et qui consiste à croire que le directoire voulait vraiment s'en débarrasser. J'ai quelques doutes sur cette version. Pourquoi ? Parce que dans la correspondance que j'ai eu le bonheur de traduire, comme vous avez eu la gentillesse de le précéder dans votre belle introduction, et dans cette correspondance, le directoire, on découvre que le directoire donne au général Bonaparte la liberté de revenir en France lorsqu'il juge le moment opportun ou nécessaire pour rentrer dans le pays. D'ailleurs, dans une de ces lettres de Bonaparte en Orient, on découvre que il est arrivé au mois de juillet, donc à l'aube de ce 1er juillet 1598, mais lui, Bonaparte, il s'était donné jusqu'au mois d'octobre pour décider s'il reste en Égypte ou s'il rentre. Bien évidemment, comme on le sait tous, il y avait le désastre d'Aboukir, il y avait que Talleyrand, ce diable boiteux, n'est pas allé prévenir le sultan ottoman à Istanbul comme c'était prévu entre Bonaparte et Talleyrand. Et du coup, enfin par conséquent, le sultan a vite promulgué une fatwa contre Bonaparte en Orient, et c'était malheureusement le premier clou dans le cercueil de cette expédition militaire. Donc pour dire au public que l'idée directoire voulait se débarrasser de ce jeune conquérant est vraiment sujette à caution et qu'il faut la creuser, et je ne la crois pas. Moi, je crois plutôt à ce que Talleyrand a jugé que, géopolitiquement parlant, et le moment était venu pour que la France mange un morceau du gâteau ottoman, du gâteau de l'Empire ottoman, qui était à l'époque, comme nous savons, l'homme malade de l'Europe, et que avant que les Anglais et les autres nous courent pour chercher à manger tout le gâteau. Et donc, dans la tête de Talleyrand, c'était plutôt ça.
Et couper la route des Indes au...
Oh oui, au combien ? Donc, parmi, vous voyez,
dans... Britannique.
Oui, merci de l'avoir évoqué, pour vous dire combien c'était sérieux. Hein. C'était pas à se débarrasser de ce jeune de 28 ans. Non, c'était un truc sérieux. Dans le sens où on lui a... Et dans l'ordre donné à Bonaparte, l'ordre donc qui était émis par le directoire, les trois premiers ordres, c'est dans cet ordre-là. D'abord, couper la route des Indes aux Anglais. Deux, creuser un canal reliant les deux mers. Trois, fonder un empire français en Orient et dont l'Égypte serait le noyau. Donc, vous voyez, c'était une affaire sérieuse qui touche dans sa globalité au conflit qu'opposait les deux grands empires de l'époque qui étaient l'Angleterre, la perfide Albion et la France. Thank you.
Alors, nous sommes sur France Culture, dans l'émission « Questions d'islam ». Aujourd'hui, nous parlons des relations de Bonaparte, et plus tard de l'empereur Napoléon, avec l'islam. Pour reprendre les deux expressions, les deux phrases, celle de Goethe, Napoléon et le Mahomet du monde, et Victor Hugo qui les ramène uniquement à l'Occident, donc Mahomet de l'Occident. Pour en parler, c'est avec joie que nous avons Ahmed Youssef, historien, écrivain, traducteur, administrateur de l'Institut d'Égypte. Pour cette deuxième partie, cher Ahmed Youssef, il arrive à la rade d'Alexandrie dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1798. Ce qui est curieux, ce qui m'avait frappé, c'est que la dite armada a mis 100 jours pour être mise sur pied, un peu dans la discrétion, voire un secret. Et pourtant, l'expédition est aussi une expédition scientifique et militaire. Et il va y avoir, presque comme première décision, la fondation, la création de l'Institut d'Égypte, dont vous êtes un continuateur et un illustre administrateur.
Merci, cher Alain. Vous voyez, c'est un pan méconnu en Occident, enfin en France, du génie de l'homme. Le voilà gouverneur d'Égypte.
Il dit par le droit que nous donne la conquête.
Oui, 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 il le dit. C'est une expression de l'islam. Al-Ghalaba, Hukm al-Ghalaba. Et qu'au bout d'un mois, un jour pour jour, le 1er août, sa flotte est anéantie par la flotte anglaise de l'amiral
Nelson,
le 1er août. Donc, juste un mois. Et le voilà prisonnier de sa conquête. Et le voilà coupé de la France. Et le voilà condamné à rester dans ce pays qu'on connaissait grâce aux livres, aux récits de voyageurs. Mais là, on est sur le terrain. Je dis que c'était une manne pour l'Égypte, parce qu'elle est là, elle était obligée vraiment de s'occuper du pays, de moderniser le pays. Bien sûr, dans sa recherche de servir l'armée, de nourrir l'armée, d'armer son armée, c'est-à-dire, et qu'elle était obligée de chercher, aller vers les sources et les ressources de l'Égypte. Et le voilà, il pense, lui, à autre chose. Donc, il est dans ce drame absolu, la perte de sa flotte, il pense à fonder le 1er août, le 2 ou 3 août, pardon, l'Institut d'Égypte et le Divan. Donc, il trouve le temps d'aller penser à ces institutions qui vont vraiment changer le rapport de l'Égypte et l'Orient avec, le monde musulman avec, par rapport à la modernité. Et donc, on peut parler de l'Institut d'Égypte et de Divan. Le Divan, c'était le Diwan, le mot arabe que vous connaissez très bien, qui est aujourd'hui un mot, disons, vulgaire dans les langues européennes. Mais c'était Bonaparte qui a donné une dimension scientifique, politique, et à ce terme, en créant cette assemblée d'ulama, même le mot ulama aussi, l'ulama, en créant ce divan.
On va parler du divan dans quelques instants.
Je concentre sur l'Institut.
Oui, avec cette idée que, suite à ce désastre et le fait qu'il soit prisonnier de sa propre enquête, ce qui paraît être oxymorique en tout cas, il pense à cette idée de fonder une académie savante et puis la célérité avec laquelle les choses se sont faites. À ma connaissance, la première réunion de cette société savante a lieu dans les 20 jours, donc le 22 ou 23 août 1798, présidé par le mathématicien Caspar Monge. Et donc, pour lui, il faut donner une vision scientifique, moderniste, qui vient surajouter à la conquête militaire.
c'est son génie vraiment. C'était sans précédent dans l'histoire. Qu'un concurrent, parce qu'il faut appeler un chat un chat, c'était une conquête bien militaire. Hein. Donc, mais lui, il voulait donner à cette conquête une dimension scientifique. Il voulait là un peu imiter Alexandre le Grand qui se targuait d'avoir comme savant à ses côtés en Orient Aristote. Or, Aristote, si grand qu'il était, évidemment, et c'était un seul homme. Mais là, Bonaparte, c'est un peu 165 savants, toutes disciplines confondues, réunis dans une assemblée au Caire, en Orient, et qu'il est lui-même membre de cet institut d'Égypte, Monge le grand savant qui avait sa confiance, qui est connu en France, évidemment, et en était et le promoteur et le premier directeur. Comme avant d'entrer dans le studio, on parlait un peu de l'Institut d'Égypte et on a évoqué avec vous, Ghaleb, l'histoire de cet Institut d'Égypte. Cet Institut d'Égypte est revenu à la vie deux fois, notamment en 1859, où l'Institut est revenu au Caire, après un passage à Alexandrie, est revenu au Caire sous la présidence de qui ? De un grand savant qui s'appelait Jomar. Eh bien, ce Jomar, de 1859, il était le plus jeune savant polytechnicien de l'expédition de Bonaparte. Et que, en 1859, il était toujours en vie. D'ailleurs, Yves Lessu, le grand savant estonien, l'appelait dans une très belle biographie de Jomar, le dernier égyptien, l'appelait comme ça, par rapport à l'histoire de l'expédition. Et dans le dernier égyptien, donc, on trouve que Jomar, il est élu par la France et par l'Égypte, premier président de cet institut d'Égypte qui revenait donc à la vie en 1859. Pour vous dire que la boucle était bouclée là, hein, et que si Jomar était dans le sillage de Bonaparte en 1798, eh bien, il le voilà encore. Il fait donc la continuité. Il n'y avait pas de rupture. Il n'y avait pas de rupture, il y avait une continuité de l'histoire de l'Institut qui existe encore aujourd'hui, par ailleurs.
Et encore une fois, vous en êtes la preuve vivante, puisque vous siégez dans son conseil d'administration.
Merci.
Revenons au divan, puisque je vous ai dit que nous en parlerons. En réalité, quitte à ce que j'anticipe sur une autre question, le génie de Bonaparte à ce moment-là, c'était d'avoir une double approche dans ses relations avec l'islam, à la fois comme religion et civilisation. C'est d'abord en interne, donc avec le corps des oulémas, il faut un peu apaiser les choses, les rassurer, les mettre en confiance, et aussi en externe, dans une correspondance avec les grands du monde musulman, comme on aurait dit aujourd'hui. Pour le divan, il va s'appuyer sur l'université, la mosquée-université à Lazare.
Vatican-Sorbonne.
Ce que vous appelez, vous, Vatican-Sorbonne, ou l'équivalent du Vatican-Sorbonne, en s'appuyant sur le prestige de l'islam. Et en réalité, c'était pour dire aux Égyptiens, et via les oulémas, qu'il est là pour les aider à s'affranchir, en gros, du pouvoir à la fois ottoman et aussi de la corruption des Mamelouks.
Dans cette magnifique question, il y a une double approche de votre part, cher Ghaleb. D'abord, la création même, l'acte de créer ce divan, et après, la correspondance avec les princes de l'islam de l'époque. D'abord, la création du divan. C'était une des grandes surprises politiques de cette expédition. Parce qu'elle va vraiment complètement contre les idées de Volney dans son livre. Volney qui voulait vraiment que le futur conquérant utilise la main forte dans son rapport à l'islam et le musulman. Or, le voilà, il arrive une fois en terre d'islam, il est sur un terrain de tolérance, un dialogue. Il
prononce l'attestation de foi.
Absolument.
Et ce qui fait dire à certains que de facto il est devenu musulman.
Or, c'était une politique plutôt, une diplomatie, voilà, si vous voulez bien. C'était une diplomatie interne et qu'il ne voulait pas, surtout, aller ou se montrer un croisé. Hein? Il ne voulait pas leur montrer que c'était un chrétien qui venait de l'Occident. Non, c'était un ami de l'islam. C'était un ami de musulman. Il y avait ce côté-là. Et politiquement parlant, à l'intérieur de l'Égypte, les ulémas vont comprendre qu'ils peuvent, eux, s'affranchir du pouvoir du sultan ottoman. Ils peuvent s'affranchir du pouvoir politique des mamelouks. D'ailleurs, c'est eux-mêmes, ces ulémas-là, ont eux-mêmes vraiment... qui vont élire Mohammad Ali un peu plus tard, en 1805. Ils vont porter Mohammad Ali sur leurs épaules vers la citadelle du Caire pour qu'il prenne le pouvoir en dépit de la volonté du sultan ottoman. Tout le génie de Bonaparte, il est là. Hein. C'est une révolution culturelle. Et après, dans la continuité de cette approche de l'islam, il y avait donc sa correspondance avec les princes du monde musulman. Regardez, mon cher Ghaleb. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il était prisonnier de sa conquête et qu'il a compris que Talleyrand n'est pas allé voir le sultan à Istanbul et que cette fatwa contre lui émanait de la sublime porte montrait bien que c'était à lui de se débrouiller pour s'ouvrir au prince de l'islam. Eh bien, c'était comme ça qu'il a commencé à correspondre avec le sultan du Maroc, avec
Moulay Slimane,
qui était un très grand sultan, vraiment, et très ouvert lui aussi vers l'Europe. Et après, il y avait le dé d'Alger, le dé de Tunis.
Le bey d'Alger et le dé de Tunis. Ce sont des grades, à une lettre près.
Oui.
Le bey de Tripoli.
Oui. Et le dey d'Alger.
Et le dey d'Alger, bien sûr.
Et après, le sultan de Mascate, pardon, le sultan de Darfour, le sultan des musulmans de l'Inde, Tipu Saheb, avec lui, il a eu vraiment une grande correspondance dans le cadre d'un éventuel empire musulman sur le trace d'Alexandre le Grand, hein, vraiment, de l'Égypte jusqu'en Afghanistan.
Et le shérif de la Mecque.
La plus importante, effectivement, correspondance a eu lieu avec Ghalib bin Moussaïd, le shérif de la Mecque, une correspondance très importante, très intéressante, à laquelle s'intéressait notre ami Louis Blanc dans son livre, dans ses deux derniers livres, par ailleurs, sur l'islam, Victor Hugo et Lamartine.
Si vous voulez bien, Ahmed Youssef, on revient au divan. Il m'avait semblé que bien que cette institution fût composée de religieux, en réalité, son rôle était on ne peut plus laïque, puisqu'elle avait une sorte de prérogative politique. Elle était composée d'abord, dans un premier temps, d'une dizaine de membres, d'éminents représentants, à la fois de l'institution Al-Azhar, mais aussi des notables égyptiens. On ne va pas tous les citer, mais il y a des gens comme Abdallah Sharqawi, Khalil al-Bakri,
oui.
Mustafa Damanhouri,
oui.
Ahmed al-Arishi, enfin des noms comme ça. Et dans un premier temps, les relations vont plutôt bien entre Bonaparte et le divan. Après, il peut y avoir peut-être quelques petites frictions. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de la femme égyptienne?
Ah oui.
C'est pour l'anecdote et c'est pour nos amis auditeurs. Donc.
C'était, au fait, je suis en train de chercher une citation dans un entretien qu'elle a eu avec le cheikh d'Al-Azhar, avec les ulémas de divan. La femme égyptienne, c'était cette Nafisa.
Que vous avez évoqué tout à l'heure, l'épouse de Mourad Bey.
L'épouse de Mourad Bey, d'ailleurs, s'appelait Nafisa Al-Mouradeya. Mourad Bey, c'était un homme, un chef mamelouk assez puissant, très riche, un homme ténébreux, un homme qui avait une longue histoire avant d'épouser cette Nafisa Al-Mouradeya. Et Bonaparte a eu un rapport assez plutôt cordial avec cette dame. Elle était richissime. Elle était en amitié avec le consul de France et le consul d'ailleurs aussi de Venise au Caire. Et elle était la seule femme en Orient qui avait chez elle une horloge. C'est une autre histoire, le soir des horloges au Caire, sans entrer dans les détails. Là, si vous me permettez, il y avait l'histoire de ces femmes qui ont été tuées. Je ne sais pas si on peut peut-être en parler très rapidement. Et donc, ces soldats français qui ont reconnu avoir tué, dans des circonstances un peu
scabreuses,
des femmes égyptiennes. Et là, Bonaparte, donc, dans sa politique de tolérance avec l'islam, et ce dialogue avec le Zulima, ne voulait pas laisser passer cet incident fâcheux sans un châtiment exemplaire. Et là, il décide de faire fusiller donc les soldats, d'ailleurs contre la volonté du général Kléber, qui disait que si on fusille nos soldats, eh bien, on va affaiblir notre armée, notre image, et on va donner du courage aux Égyptiens de se révolter contre nous. Okay.
Et dans ce qui est considéré comme une attestation de foi, lorsqu'il dit « Je reconnais qu'il n'y a de divinité que le Dieu un », le Dieu, il le dit même selon son appellation arabe, Allah, et je reconnais que Mahomet est son prophète, et il ajoute, et je suis un de ses amis. C'est-à-dire que je suis venu avec un sentiment d'amitié et de respect pour vous, chers membres du divan, et je suis aussi un ami de votre prophète. C'est comme ça, me semble-t-il, qu'il a gagné, en tout cas dans un premier temps, leur confiance.
Oui. Effectivement, vous voyez, si vous voulez savoir, cher Ghalib, quelle image avait Bonaparte aux yeux de Zulima, eh bien, il faut lire El Gabarty, le grand chroniqueur égyptien.
Et l'unique, vivant de la période.
Oui, effectivement. Et qui faisait une comparaison assez intéressante entre Bonaparte et Kléber. Il parle de comment les Zulimas ont été un peu surpris par la raideur, froideur de général Kléber, après le départ de Bonaparte, bien sûr, enfin le retour de Bonaparte en France. Et que Gabarty disait, oh, celui-là n'avait pas le sourire de l'autre. Ah, bah, c'était très important de le signaler.
Et son successeur après son assassinat, Abdallah Menou.
Oui.
Alors on dit que, en gros, même s'il n'y a pas eu de la part de Bonaparte un encouragement à ce que ses officiers supérieurs puissent se convertir à l'islam, il n'y a eu aucune opposition, bien au contraire.
On peut imaginer évidemment, Ghalib, que le général Menou, qui était un général assim, vraiment, deux fois plus âgé que Bonaparte, hein, et ça dans sa quête de conversion vers l'islam, et nous ne pouvait pas devenir musulman sans l'accord de son chef au Caire. Lui, il était commandant de la place de Rosette sur la Méditerranée. Et que donc Bonaparte, d'ailleurs, il y a deux ou trois lettres dans la correspondance de Bonaparte à Menou, donc du Caire à Rosette, où Bonaparte félicite vraiment Menou pour et sa conversion et sa façon de mener la prière de vendredi aux musulmans. C'est incroyable, incroyable. Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de ces relations peut-être méconnues du grand public. Je pense que nos auditeurs le savent ou le perçoivent un peu, mais en tout cas les relations entre le général Bonaparte, plus tard l'empereur, et puis même son neveu, avec l'islam, religion et civilisation. Et aujourd'hui, nous parlons de tout cela avec grand plaisir, avec Ahmed Youssef, historien, écrivain, traducteur, administrateur de l'Institut d'Égypte. Et pour cette dernière partie, je vous ai peut-être un peu interrompu et j'implore votre indulgence, Ahmed Youssef, c'est que il y a une phase d'engouement et de passion, et puis il va y avoir une phase de déception. Dans son génie, j'ai cru le comprendre, c'est qu'il va percevoir dans la fête du Mouloud, du Maulid, un moment de liesse, d'allégresse et aussi l'importance que la figure du prophète a dans la dévotion populaire. Il encourage, en tout cas, il fera en sorte que cette fête-là soit une sorte de fête nationale, en tout cas. Et puis, par la suite, c'est vous qui allez nous le dire, il va y avoir une sorte de froideur ou de déception. Et à quoi cela est-il dû ?
D'abord, il y a des raisons politiques. Que, comme je l'ai dit, je crois même deux fois, qu'il y avait cette trahison de Talleyrand, ne pas aller voir prévenir le sultan pour lui dire que la conquête n'est pas contre, elle n'était pas conçue contre vraiment l'Empire ottoman, mais c'est contre les Anglais et les Mamelouks. Il ne l'a pas fait. Et donc il y avait la fatwa contre Bonaparte. Cette fatwa a été utilisée sur place largement par les Mamelouks et par les espions anglais. Il y avait donc la première révolte au mois d'octobre, donc vous voyez, et que malheureusement la populace au Caire a envahi l'institut, le divan, ils ont tout cassé, surtout le laboratoire des savants. Cela a ouvert les yeux de Bonaparte sur la réalité des choses, la réalité du terrain. Il était tellement fâché que, si vous me permettez, il dit aux ulémas dans la première séance au divan après la révolte. Donc il a maté la révolte, il a bombardé Al-Azhar par des canons, il a canonné Al-Azhar. Il dit la phrase suivante. Il dit aux ulémas la phrase suivante. Je veux dire en arabe d'abord. Robama kuntu musliman aksar minkum, wa in lam tughayyiru sulukakum, sa'oud al-masihiyya 'iqaban lakum. J'étais peut-être plus musulman que vous. Et que si vous ne changez pas d'attitude vis-à-vis de moi, eh bien, je reviendrai au christianisme pour vous punir. Et cela nous donne une idée sur la déception. Et Nicolas Turc, qui était un autre chroniqueur arabe, celui-là, il est maronite libanais, il dit dans sa chronologie une phrase terrible sur la déception qui nous montre bien à quel point il était déçu. Il disait que Bonaparte a réuni les ulémas dans le divan et il leur a dit la phrase suivante. Un jour, vous allez sortir, vous allez exhumer les eaux des soldats français de la terre et vous allez les arroser avec vos larmes. Tout ça vous montre bien à quel point elle était déçue. D'ailleurs, il ne restera en Égypte que quelques mois et il partira juste au retour de la conquête de la Syrie, très déçu aussi par la réalité politique du terrain en Syrie, en Palestine, et qu'il rentre en France au mois d'août 1799.
Alors, nous n'avons comme illustration de Bonaparte en Égypte que, pas que, mais en tout cas le portrait connu de Jean-Léon Gérôme, qui a été fait après coup. Mais que reste-t-il dans l'esprit, dans la mémoire, dans la conscience, d'abord des Égyptiens et par-delà des musulmans par la suite? Quelles en sont les conséquences? Il y a le fait de creuser le canal entre les deux mers. La mer Koulzoum, qui est la mer Rouge, et la mer Méditerranée. Et quelle est la réception dans l'esprit, à la fois de l'islam d'une manière générale et des Égyptiens d'une manière particulière, de cette expédition et de Bonaparte?
C'est une très grande question qui, au fait, qui résume un peu...
Que je vous pose en droit à la fin de l'émission, alors que j'aurais dû le faire bien plus tôt.
Mais moi, je vais essayer d'être bref. Vous voyez, d'abord, il y a les Égyptiens d'aujourd'hui, les Arabes d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui sont conscients de l'apport scientifique de cette conquête militaire. Vous avez parlé du canal de Suez, évidemment, à périr, comme disait le slogan de Ferdinand de Lesseps, en 1859, au moment des travaux de percement du canal, il avait lancé ce slogan « Apurir terram gentibus »,« Ouvrir la terre aux hommes ». Et c'était la philosophie de Bonaparte, réunir les deux mers, d'ailleurs elle s'appelait le canal des deux mers, le mot « canal de Suez » ça viendra au XIXe siècle après. Et que donc il y a l'œuvre qui existe encore aujourd'hui, le canal de Suez, rapprocher l'Orient de l'Occident.
Et c'est là où on parle du monde musulman. Il Absolument. Paraît qu'on n'a jamais parlé du monde musulman avant le canal de Suez.
Le canal servait essentiellement à quoi ? Ça servait à faciliter le commerce de l'Europe avec le monde musulman asiatique. Ça veut dire vers l'Inde notamment. C'est pour ça qu'il a eu cette correspondance avec le prince musulman de l'Inde, Tipu Sahib. Et alors, il y a ça, il y a l'imprimerie. Les musulmans d'aujourd'hui sont conscients que la toute première imprimerie qui a fait donc son entrée à Dar al-Islam, dans la terre d'Islam, et c'était l'imprimerie que l'expédition que Bonaparte a portée en Égypte. Et c'était une révolution culturelle, parce qu'on était encore en 1798, trois ou quatre siècles après l'imprimerie de Gutenberg, encore à l'ère des manuscrits. Et donc c'était une grande révolution culturelle qui a bouleversé culturellement tout l'Orient. D'ailleurs, cette belle phrase de Victor Hugo, il dit, dans l'éducation du monde, la presse a succédé au catéchisme. Après le pape, le papier. Et que, effectivement, c'était une révolution. Il y a après l'image si vous me permettez d'aller un peu vers l'Égypte, proprement dite, parce qu'il y a une grande science aujourd'hui, connue dans le monde entier, qui s'appelle l'égyptologie. Or, cette science, c'était une des conséquences de l'expédition de Bonaparte. Nous allons célébrer l'année prochaine, en France essentiellement, mais aussi en Égypte, le bicentenaire de la création du département de l'égyptologie au Louvre par Champollion, 1826. Eh bien, la découverte de la pierre de Rosette et le déchiffrement plus tard par Champollion des inscriptions de cette pierre ont ouvert la voie à la découverte du secret de cette ancienne civilisation qui était la civilisation de l'Égypte.
Merci infiniment. Merci, cher Ahmed Youssef, d'être venu nous parler de ces relations, en tout cas passionnantes, passionnelles aussi, entre Bonaparte et l'islam. On n'a pas évoqué, ce n'est pas le but, sa conversion putative, réelle ou supposée. Mais en tout cas, c'était l'émission Questions d'Islam, chers amis auditeurs. Vous la retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Nadège Antonini et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.
France Culture.
Sophie n'est pas une petite fille modèle, c'est plus fort qu'elle. De drôles d'envies traversent tout le temps son esprit et la poussent à faire bêtise sur bêtise. Est-ce qu'elle le fait exprès?
C'est une poupée? J'en étais sûre!
Fais attention, tu vas la faire fondre!
Je vais tellement bien la soigner que je ne la casserai jamais. Oh non!
Malheur, Sophie. Les malheurs de Sophie par la comtesse de Ségur. Réalisation Sabine Zovigian.
Un podcast à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Washington et Kiev signent enfin un accord sur l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes.
Hervé Gardette.
Donald Trump, qui avait Volodymyr Zelensky dans le viseur, semble désormais plus conciliant à son égard et plus méfiant envers Vladimir Poutine. Une inflexion durable. 100 jours après son arrivée à la Maison-Blanche, Trump deviendrait-il un peu moins déraisonnable? Nous en débattrons ce dimanche avec Sylvie Kaufmann, Jean-François Colosimo, Didier Lesky et Magali Lafourcade.
L'Esprit public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.